opera. Tov.
Oui.
Shalom. Ouvracha. Boker Tov. Alors, suite à la demande générale, le peuple s'est exprimé. Et le peuple a dit qu'il voulait étudier Yom HaShoah en première heure parce qu'il y en a qui ont des rendez-vous, je sais pas quoi, à 9h.
Et donc,
j'ai dit je sais pas quoi, comme ça, Bokardov. Donc, c'est-à-dire, on va parler un petit peu de Yom HaShoah. Tov, il y a évidemment plein de choses, plein d'aspects qu'on pourrait aborder sur le Yom HaShoah. Hier, pour ceux qui ont suivi, j'ai donné un cours sur l'historique de la Shoah au travers de la vision des Sheelot ou Tshuvot des rabbins qui ont été donnés depuis 1933 jusqu'à 1945. On pourrait parler de plein de choses, mais il y a une question que j'aimerais évoquer avec vous, et particulièrement avec vous. Pourquoi je dis particulièrement avec vous ? Parce que vous êtes une génération
des vieux.
Alors,
des enfants de la Shoah.
Vous êtes la génération justement de ceux qui ont connu, alors pas forcément la Shoah, bien sûr, mais qui ont connu les gens qui ont connu la Shoah. C'est-à-dire, vous êtes la deuxième génération. Et vous êtes également les grands-parents de cette nouvelle génération qui est née et qui grandit en Israël. Et il y a ici une dissonance énorme. Quoi ?
Non, c'est-à-dire que moi j'ai connu la Shoah très tardivement. On habitait en Algérie, on avait nos difficultés, bon, évidemment, notre vie, et j'avais une sorte de complexe vis-à-vis des. J'avais quelques Ashkenaz que j'ai rencontrés, soit en Algérie, soit en France, et j'avais une gêne vis-à-vis. Donc j'ai appris, j'étais très gêné vis-à-vis.
Oui, mais alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de la main de manière très très violente, parce que la Shoah n'est absolument pas une histoire d'Ashkenaz. Il faut cesser avec ce complexe-là. Hitler nous a appris qu'un juif, c'est un juif.
Voilà.
Il y avait des noms, sans
parler de ton cas personnel, parce que peut-être que toi, tu as eu la chance que ta famille n'ait pas été touchée, mais quand on parle d'Algérie, d'Algérie, il y a énormément de juifs qui ont été déportés d'Algérie vers la France et de la France vers Auschwitz.
À Mauricière, mon père, il avait 11 ans, en 1941. Ils sont rentrés dans l'école, ils ont dit les filles d'un côté, les garçons d'un côté, les filles sont parties, les garçons, enlevez vos pantalons, vous restez à l'école, vous rentrez à la maison. Et il a arrêté l'école à 11 ans.
Donc, c'est une des... Bien sûr, c'est la petite histoire dans la grande, mais bien sûr. Donc ça veut dire que quand on dit la Shoah, j'ai un complexe par rapport aux Ashkenazim, parce qu'ils ont souffert énormément, va dire ça aux 50 000 juifs de la ville de Salonique, qui étaient tous séfarades et qui ont tous été massacrés à Auschwitz. Et si on doit faire des statistiques chiffrées, alors oui, il y a eu plus de juifs Ashkenaz qui sont morts dans la Shoah que de juifs séfarades. Mais déjà, de faire une statistique comme ça, c'est absurde. Il y a des juifs qui ont été sauvés, et il y a des juifs qui n'ont pas été sauvés. Point. C'est-à-dire, point. Donc, je pense que ça, c'est très important, parce que, justement, aujourd'hui, particulièrement quand on habite en Israël, il va y avoir à 10h la sonnerie. Mais cette sonnerie, elle ne concerne pas que les Ashkenazim. Et nos enfants, c'est comme ça qu'ils le vivent. C'est-à-dire que là, mes enfants, ils sont partis à l'école habillés en noir et blanc. T'es question ma Shoah, et on va en parler pour tout le monde. Et on s'en fiche de savoir qui que quoi qu'est-ce. Alfred Nakash, il n'est pas polonais. Ça va. Donc, la question de savoir, est-ce que moi, j'ai plus de légitimité d'en parler parce que je viens d'une famille polonaise, que ma grand-mère, elle était à Auschwitz? Non, j'ai pas plus de légitimité. Je peux raconter l'histoire de ma grand-mère. Mais ça ne me donne pas plus de légitimité. Je suis un membre du peuple juif. Et ça, c'est à mon avis quelque chose de fondamental à comprendre dès le départ. Yom HaShoah, c'est une chose... Bichlal, la Shoah, ça a été le premier depuis très longtemps ciment du peuple juif. Le premier depuis très longtemps. C'est-à-dire que depuis la destruction du Beit HaMikdash, le départ en exil, il n'y a pas eu un événement qui nous a... Alors, j'allais dire peut-être, allez, on va dire depuis la fin de la révolte de Bar Kokhba. Il n'y a pas eu un événement qui va nous souder comme celui-là. Évidemment dans la douleur. Évidemment dans la tristesse et dans le drame. Mais, et mal à ça. Les Juifs ont appris dans la Shoah qu'il n'y avait pas de Ashkenaz séfarade, que tout le monde était juif.
Même celui qui n'était pas juif, qui n'avait que le père juif, qui n'était et la mère juive.
Ah bah oui, évidemment. Parce que les lois du Nuremberg ont dit que en fait, si t'as un grand-parent juif, t'es juif. Donc, t'as raison que ça va en plus au-delà de ce qui est le peuple juif al-pi halakha. Mais bon, viens, on se concentre sur notre histoire. C'est ta raison qu'il y a des gens dans le ghetto de Varsovie, il y avait des églises qui étaient pleines tous les dimanches de chrétiens, mais qui avaient un grand-parent juif. Donc ils étaient quand même dans le ghetto de Varsovie. Donc c'est malheureux pour eux, les pauvres. Ils sont pas juifs et ils sont quand même dans cette histoire. Donc tout ça pour dire que la Shoah, c'est d'abord et avant tout le ciment du renouveau juif. Alors ça a commencé dans la douleur, mais c'est quelque chose de fondamental. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, on est obligé de cultiver ce ciment-là. Ok, ça va ? C'est longtemps ? Ça va ? Et ça, c'était bien ? C'est compliqué, hein, d'ailleurs, cette histoire. Hein. Je le dis comme ça, entre parenthèses, je fais un petit bémol. À chaque fois que tu fais un cours dans un endroit, il y a la pause de Pessah et tu reviens pour Yom HaShoah. C'est pas le plus fou. En tout cas, notre question aujourd'hui, et je redis, pour vous, la génération qui ont connu les déportés, qui ont son fils ou qui sont la génération de l'après, vous avez grandi en France, si je ne m'abuse, dans l'après-guerre. Et donc, non, pas en France, mais enfin l'objet.
Non, je dis sauf moi.
Pourquoi sauf toi?
Ben, moi, c'était pendant la guerre. Je suis né pendant la guerre.
T'es né en quelle année, toi?
En 40.
En 40, à peu près là.
Et lui aussi.
Hein, c'est les jeunes. C'est les jeunes. C'est les jeunes. Ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui. D'accord?
Les vieux.
Hein, les jeunes?
Les vieux, c'est ça.
Donc, hein?
Comment ce scandale de ce scandale qu'on fait, qui est normal, plus que normal, du carreau de la Shoah, et qu'aujourd'hui, dans un pays comme Israël, riche, positif, avec plein d'argent, malgré tout, peu importe comment il l'utilise, mais plein d'argent, on puisse laisser des gens de la Shoah encore mieux.
Ah, mais c'est un scandale.
En plus, ils reçoivent de l'argent.
C'est un scandale, mais ils ne reçoivent rien du tout.
Rien.
C'est un scandale. Alors, d'où ça vient, je peux te dire.
Toutes les années, j'en parle, mais ils ne font rien.
Toutes les années, ils en parlent, ils font rien. Franchement, ça serait compliqué de donner à chaque rescapé. Combien il en reste de rescapés? Pas beaucoup.
150 000.
Hein?
150 000, je crois.
127
000. Cloum.
127
000. C'est rien. Et je te parle
d'Israël. En
Israël, il n'y en a pas autant. Ça serait compliqué de budgétiser au niveau de l'État 10 000 shekels par mois. Et on n'en parle plus.
C'est
alors, non, c'est justement pas incompréhensible. C'est inadmissible. C'est un scandale. Mais la raison historique, non, pas invoquée, Chas v'Shalom. Mais quand on y réfléchit, c'est parce que la création de l'État d'Israël, on a voulu balayer le souvenir de la Shoah. C'est-à-dire qu'il y avait la Shoah, mais maintenant on est autre chose. On est nouveau. On est le nouveau juif. On a mis en place le jour de Yom HaShoah très rapidement. Mais on ne veut pas être toujours la tête tournée vers le passé. On est le nouveau juif qui a reconstruit l'État d'Israël. Et quand on parlait de la Shoah au début, c'était quoi pour des lois? Regarde, la preuve en est qu'on fête Yom HaShoah aujourd'hui. 27 000. Alors, quel rapport?
Non,
ah, d'accord. Non, c'est vrai que... Pourquoi est-ce que c'est le 27 Nissan, Yomachma?
Le libérateur des camps.
C'est le 27 janvier qui a été choisi en Europe pour la libération d'Auschwitz. Donc, c'est la journée internationale du souvenir de la Shoah. Hein? Mais justement, le soulèvement du ghetto, c'est pas le 27 Nissan. Le soulèvement du ghetto, c'est ce qui avait été proposé. C'est, ils voulaient, quand ils ont commencé à parler de faire Yom HaShoah, bon, je te parle au tout début des années 50, ils ont proposé le jour du 19 avril, qui est le jour du soulèvement du ghetto de Varsovie. C'est-à-dire sur toutes les choses qui se sont passées dans la Shoah, s'il y a bien un truc sur lequel l'État d'Israël est prêt à se revendiquer, c'est le soulèvement du ghetto de Varsovie. On a pris les armes, on s'est battu, regarde, c'est le juif. Alors pourquoi ça n'a pas été fait le 19 avril? Parce qu'en fait, le soulèvement du ghetto de Varsovie, comme Israël voulait quand même être calqué sur un calendrier juif, il se trouve que c'était aussi la veille de Pessah. C'est-à-dire le soir, c'était la Seder. Donc ils ont dit, faire un jour de ce commémoration nationale Erev Pessah, ça ne marchera pas. Donc, ils ont dit, ok, alors Pessah, on ne peut pas le faire. Après Pessah, il y a Yom HaAtzmaout juste après. Donc ils ont dit, 6 jours après Pessah, une semaine avant Yom HaAtzmaout, Yalla. Avant, 6 jours après Pessah, une semaine avant Yom HaAtzmaout, Yalla. En fait, le 27 Nissan ne représente rien à part le fait qu'il est entre Pessah et Yom HaAtzmaout. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été faire ça en février heureux? Parce qu'à la base, le point de repère, c'était le soulèvement du ghetto de Varsovie. Donc, si tu veux, il y a vraiment eu cette tendance au début des années 50. Que lorsqu'on parle, si déjà on parle de la Shoah, ça sera les actes de bravoure militaire, les actes de bravoure clairement énoncés. La meilleure preuve de cela, c'est le monument qui a été érigé par l'artiste Nathan Rapoport à Varsovie. Un grand monument devant ce qui est aujourd'hui le nouveau musée juif de Varsovie, de Pologne. Il y a un grand monument. Alors, c'est quoi ce monument? C'est une stèle. Une sculpture avec en l'honneur des révoltés du ghetto. Donc, tu vois des mecs comme ça, des muscles, des armes, machin. Et au milieu, Mordechai Anilevitch, bah. Bon, au-delà du fait que effectivement, ça fait 2 ans qu'ils étaient dans le ghetto et qu'au niveau leur musculature, c'était pas forcément ça.
Exactement.
Ça énerve. C'est pas grave. L'autre côté de la statue est très édifiante. Puisque tu as donc le côté avec les armes, machin, tu as même une femme qui est comme ça, qui porte le fusil avec le sein nu.
C'est Jeanne d'Arc.
C'est pas Jeanne d'Arc, c'est censé représenter la Marianne.
La Marianne, ouais.
La liberté guidant le peuple.
La Méduse.
Mais non, pas la Méduse.
Non.
Le tableau de Delacroix, de la liberté guidant le peuple pour la Révolution française.
Ah oui, d'accord.
C'est Jean. Regardez, c'est notre révolution à nous. Je tiens à dire que Yad Vashem, ils ont refait ce monument, ils lui ont couvert la poitrine.
Bravo.
Ah, écoute. Heureusement. Écoute, ah, Jérusalem oblige. Donc ça, c'est la première version de la stèle. De l'autre côté du monument, il y a une autre sculpture. On voit les Juifs
du même artiste.
C'est la même statue. C'est deux faces. Et donc, de l'autre côté, tu vois des Juifs de tous les styles. Un rabbin, une femme enceinte, un enfant, un adulte, une femme, machin, qui marche en ligne, et tu vois en arrière-plan les casques et les baïonnettes nazies, ce sont les juifs qui, eux, se sont laissés guider comme des moutons à l'abattoir. Et donc, pour Nathan Rapoport, tu choisis ton camp. Soit tu regardes ce côté-là, soit tu regardes ce côté-là. Dans l'idée de dire que ce qui est vraiment important, c'est le Yad Vashem, les deux faces sont côte à côte. Pourquoi les deux faces sont côte à côte? Eh bien parce que ce n'est pas moins de la bravoure quand tu es père de famille de ne pas prendre les armes pour essayer de protéger tes enfants autant que possible. En n'oubliant pas qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc quand il y en a qui veulent se révolter contre les nazis parce qu'ils ont la fierté du peuple juif, c'est très bien. Mais quand d'un autre côté tu as 20 ans et que tu n'as rien à perdre, alors, tu vas prendre les armes, au maximum tu te feras tuer. Mais lorsque tu en as 50 et que tu as 4 enfants,
ouais, c'est ça,
Et que si tu sais que si jamais tu te révoltes, c'est peut-être même pas toi qui vas te faire tuer. Mais c'est tes enfants. Tu penses autrement. Et c'est pas moins courageux. C'est-à-dire, donc c'est de cela dont on est en train de parler. Et donc ce que je dis, c'est que à la création de l'État d'Israël, si déjà on voulait parler de la Shoah, c'était la bravoure, la vaillance. On n'est plus là-dedans. Baruch HaShem, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, tout le monde comprend que toutes les personnes de la Shoah, quels qu'aient été leurs actes, peuvent être considérées comme des héros. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui ont collaboré. Bien sûr. Mais vous savez, même pour les personnages qui étaient les plus compliqués, comme les capots dans les camps, comme les chefs du Judenrat, des conseils juifs dans les ghettos, c'est pas tout blanc et tout noir,
c'est-à-dire c'est comme en Égypte, de toute façon.
Exactement.
Chacun voulait sauver sa peau.
Alors, chacun voulait sauver sa peau. Quand tu vois dans les ghettos, dans les camps, c'est vrai, il y avait des capots qui utilisaient leurs privilèges pour faire le bien, et il y en a qui utilisaient leurs privilèges pour faire le mal. Parmi les dirigeants des conseils juifs, donc, il y en a qui étaient plus au courant que d'autres. C'est-à-dire ? Et il y en a qui, par exemple, prenaient le chef du Judenrat de Varsovie qui s'appelle Adam Tcherniakov. Il s'est suicidé. Pour pas donner les... Pas que les enfants. C'est-à-dire que le 21 juillet, les nazis viennent le voir et lui disent « Tu nous donnes 6000 juifs. » Et donc, ils donnent tous ceux qui sont malades, à l'article de la mort, machin. Et quand le lendemain, parce que c'était les tests pour Treblinka, lorsque le lendemain, le 22 juillet, on vient lui dire « Maintenant, tu vas me donner 7000 juifs aujourd'hui et ce sera ton quota quotidien. » Alors, il écrit dans son journal « On me demande d'assassiner de mes propres mains les enfants de mon peuple. J'en suis incapable. » Et il décide de se suicider. Sauf que, il y a plein de gens qui en ont voulu. Parce qu'il s'est suicidé, mais il n'a pas dit.
Oui, il n'a pas dit.
Il n'a pas dit, il n'a pas prévenu ce que lui, il avait compris qui se passait.
Ah.
Donc, il a dit « Moi, je peux pas !» Mais il y en a qui en ont voulu, il y en a qui ont dit, mais non, mais c'est grand ce qu'il a fait. D'un autre côté, il était apprécié de la population, déjà avant la guerre. Mais prends un autre bonhomme comme Rumkowski, qui était le chef du ghetto de Lodz. Et lui, quand il a pris le titre de chef du ghetto, c'était pas des blagues. Il s'est fait faire une couronne, il a ordonné que tous les juifs se prosternent devant lui quand il passe, ouais. Il a fait faire des billets de banque à son effigie.
Un juif,
lui. Un juif. Non, pas shoot. Sauf que, alors, les juifs, ils le détestaient.
Peut-être fait le double jeu.
Alors, je sais pas. Hein,
C'est
le chef du ghetto de Lodz. Maintenant, attendez. Difficile à gérer, les juifs, ils le détestaient. Oui. D'un autre côté, comme il tenait son ghetto comme ça, oui. Il savait exactement qui, quoi, où, quand, comment, quelqu'un. Lui aussi, il avait des quotas à donner aux nazis tous les jours. Et comme il savait exactement la situation de chaque juif, parce que main de maître, il a donné à chaque pendant toute la guerre uniquement les mourants, les malades, les blessés. Et le ghetto duquel il y a eu le plus de survivants, c'est le ghetto de Lodz.
Incroyable.
Alors est-ce que ça veut dire qu'il est bien, il n'est pas bien? Il a été tué après la guerre par les survivants du ghetto de Lodz.
Ah, c'est eux-mêmes qui l'ont tué.
C'est l'Opashout. C'est vraiment pas clair. Bien sûr. Prends le cas.
Il y a toutes sortes de situations. Parce
mais évidemment,
que, parce
évidemment.
Que ces situations, elles sont.
Bien sûr. Prends le cas de Kastner. C'est-à-dire Israël Kastner. Le train de Kastner. On a négocié avec les nazis. On a négocié avec les nazis pour faire sortir de Hongrie 1864
l'épisode de Chaim Weizmann.
Chaim Weizmann, il est dans l'histoire. Mais c'est Kastner qui gère tout ça. Maintenant, on va faire. On traite avec Eichmann directement. Et on va acheter des juifs. Et on va c'est de la marchandise. D'un autre côté, ces juifs-là ont été sauvés. D'un autre côté, il y en a qui diront ouais, mais il a quand même laissé vachement de place pour sa famille. Et tous ses amis. Vous comprenez? C'est pas du tout évident cette histoire. Donc rien n'est blanc, rien n'est noir. Et une chose est sûre, les comportements de chacun étaient d'abord et avant tout tournés vers la survie.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est pas... Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et je ne comprendrai jamais.
Oui.
Comment les Sonderkommando,
oui,
ils ont réussi encore. Il y en a qui vivent encore aujourd'hui. Comment ils ont pu?
Hein?
Non, non, mais il y a eu une grande collision. Une grande collision.
Non, non, il y en a... Bon, ben, d'accord, ils sont plus jeunes, mais il y en a qui ont survécu. Moi, j'ai eu la chance d'entendre plusieurs fois Jacques Altman. Et Jacques Altman, c'est un Français. Et il faisait partie des Sonderkommando du crématoire numéro 2 et 3. Et tu entends ces histoires, c'est absolument terrifiant. Absolument terrifiant. Il y a un livre incroyable qui est sorti il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Des voix sous les cendres.
Des voix sous les cendres.
Hein? C'est en fait, c'est pas de un personnage. C'est les écrits des Sonderkommando eux-mêmes dans. Pendant le. Ils ont écrit. Et ils ont enterré. Et tu dis des choses absolument incroyables. Effectivement, la majorité d'entre eux, ils perdaient la boule au bout de 3 semaines. Et ils étaient amenés à la chambre à gaz après. Il y en a d'autres qui les remplaçaient. Mais il y en a qui ont tenu plus longtemps. C'est... Comment est-ce qu'ils ont survécu moralement, mentalement, physiquement? Je ne peux pas te dire. Je peux te raconter l'histoire de Jacques, qui racontait lui-même, qu'un jour, il voit descendre du wagon d'un convoi qui arrive de France, il voit descendre ses grands-parents. Et il sait qu'ils n'ont pas l'âge pour passer la sélection. Et lui, il sait très bien ce qui va leur arriver, puisque c'est lui qui enlève les cadavres. Et à ce moment-là, il fait un choix. Il décide de se retourner. Soit pour ne pas avoir les voir, soit pour que eux ne le voient pas dans sa situation. Et il a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, est-ce que c'était ça ou ça.
Il a dû vivre après.
Oui, mais celui-là, il a témoigné jusqu'à... Il est décédé il y a quoi, il y a... juste avant le corona.
Et là, on a témoigné aussi d'un autre, qui en est sorti, qui était posé à commando, et qui disait, quand vous voyez ses amis et sa famille, vous ne pouvez rien faire, donc vous leur disiez à l'oreille, approchez-vous des bouches d'air, de façon à mourir les premiers.
C'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, il y a, moi je me rappelle de cette histoire, je raconte tout le temps cette histoire quand je suis en Pologne, parce qu'elle est incroyable. Jacques, il voit à un moment donné descendre du convoi une femme, qu'il ne connaît pas, qui a une vingtaine d'années, et qui tient dans ses bras un bébé. Et il décide au moment où elle descend du wagon, de lui arracher son bébé des bras et de le donner à une vieille dame derrière elle. Et la dame,
elle connaît son bébé.
Elle s'excite. Ah, rendez-moi mon bébé, mon bébé. Et les nazis, ils voient qu'elle s'excite comme ça. Alors ils disent, ah, bah, celle-là, elle a du peps, hein, allez pour le travail. Et des années après, enfin, après la guerre, quoi, quand Jacques il se met à parler, il va être un des premiers Français à parler, il fait des conférences un peu partout, et il fait une conférence à New York. Et il y a une femme, on est, allez quoi, 15 ans plus tard. Il y a une femme, 35 ans, qui arrive en plein milieu de la conférence, qui marche vite vers l'estrade, qui se lève, qui monte sur l'estrade, qui lui met une baffe, et lui dit « T'as tué mon bébé !» Et personne ne comprend, mais lui, il sait très bien de quoi on parle. Et bon, les choses se calment, machin, la vie reprend son cours, et il raconte que des années plus tard, il fait une autre conférence, et il y a une femme de 55 ans, qui à la fin de la conférence vient le voir et lui dit, tu te rappelles de moi? Non. Il dit, je suis la baffe. Il dit, et elle le chope comme ça, elle l'embrasse et elle lui dit, tu as sauvé mes 3 enfants. Ce que je n'avais pas compris. Parce que je ne comprenais pas. Mais toi, tu savais que si j'étais resté avec mon bébé à l'époque dans le camp, j'aurais été gazé avec les autres. Mais toi, tu as voulu me donner une chance. De toute façon, mon bébé, il était condamné. Et grâce à toi, je me suis remarié. Et j'ai eu 3 enfants. J'ai des petits-enfants. Et c'est grâce à toi. Mais vous comprenez que ça, ce n'est pas des choix. Donc, quand on parle de souvenirs...
C'est complètement...
Ah oui, mais c'est complètement absurde. Et c'est pour ça que je pense que la vraie question actuelle, pour vous, pour moi aussi, mais encore plus pour vous, qui êtes, je le répète, la génération de la deuxième génération et qui êtes les grands-parents de ces enfants qui sont nés en Israël. Que des fois, vous n'arrivez pas très bien à comprendre tout ce qu'ils veulent. je ne parle pas que de l'hébreu. Qui ici a des petits-enfants en Israël qui parlent hébreu? Je ne parle pas de ceux qui ont des petits-enfants en France. Tous. Est-ce que c'est toujours facile à comprendre tout ce qu'ils veulent quand ils parlent très vite?
Je comprends rien.
Non, pas shoot. Alors, des fois, ils parlent un peu le français, des fois, ils parlent beaucoup le français. Mais même leur français, tu as l'impression que ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas les mêmes repères.
Les aînés, ils parlent un peu français.
Un peu,
les
voilà. Petits, exactement. Non,
ils parlent français, mais ils réfléchissent.
Parce qu'aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, par exemple. Et il est évident que pour un jeune qui a grandi en Israël, c'est absolument pas la même portée et la même signification que pour toi, que pour moi. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on doit transmettre? Je ne te parle même pas des choses évidentes, c'est-à-dire que l'histoire de ce qui s'est passé, qu'ils connaissent, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais au niveau du message, qu'est-ce qu'on doit leur transmettre? Nous, on a vécu avec le traumatisme d'eux. Que ce soit vous ou moi, l'homme chané, parce que moi je suis fils de fille de déporté. Donc, ce qu'on appelle le syndrome de deuxième génération, mes parents, ils l'avaient complètement, ma mère particulièrement. Et donc, voilà, nous, on a été éduqués à ça. Et donc, la grande question, c'est, mais qu'est-ce que je vais donner, moi, à mes enfants? Qu'est-ce que je leur donne? Qu'est-ce que je fais avec eux, Yom HaShoah?
Plus jamais.
Vous savez quoi, plus jamais?
Ils peuvent défendre.
Plus jamais ça.
Mais tu veux que je te dise ça, c'est toi qui penses ça. Eux, ils ne le pensent même pas, parce que pour eux, c'est une évidence que plus jamais ça.
C'est ce qu'il a dit, c'est Bibi, hier,
dans la maison.
Mais bien sûr.
On ne parlait pas, on voulait pas
faire les
choses. Il faut insister sur
les grands-parents.
Donc, tu comprends? C'est pas la même chose. De dire plus jamais ça, c'est toi et moi qui le disons. Oui. Parce qu'on a grandi en France, parce qu'on connaît l'exil, parce que le truc.
Si tu dis plus jamais ça, il faut qu'il y ait un doute.
C'est Bachout.
Il faut défendre.
Eux, ils disent on est en Israël, c'est terminé. Bachout.
Dans une conférence, il y a un gosse qui racontait des trucs.
Mais
où mettez ça?
Nafan, exactement.
Mais là, c'est une autre époque.
Hein. Donc qu'est-ce qu'on doit leur donner? Qu'est-ce qu'on doit leur donner?
Il n'y a pas de témoignages.
Alors, il y a les témoignages pour qu'ils sachent ce qu'il y a eu, c'est évident.
Oui.
Alors, après, c'est un film qui est dur, donc tu ne peux pas le montrer.
Non, non, il a fait une fondation, il a reculé.
Ah oui, oui, évidemment, évidemment. Et c'est évident. La question, c'est.
C'est qui de quoi vous parlez?
Il y a énormément de fondations de témoignages qui ont été des endroits où tu peux. Des banques de témoignages, quoi.
Oui.
Donc ça, c'est très important, évidemment. Et là, par exemple, dans les cérémonies de Yom HaShoah, ils ont chacun reçu, les enfants, ils ont reçu des noms. Ils ont reçu chacun un nom avec une bougie et une histoire, machin. Ok, très bien. C'est fondamental, il faut le faire. De redonner à chacun son nom et son histoire, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est être tourné vers le passé. Comment est-ce que moi, je dois aujourd'hui transmettre Yom HaShoah à ceux qui ont...
Disons, par exemple, le Ramatkal, chaque année, il fait la marche, il va...
Oui, oui, mais ça, c'est institutionnel, c'est politique. Moi, je te parle du monsieur tout le monde, je te parle de son fils qui vient de faire Bar Mitzvah. Comment est-ce que lui, on lui transmet la chose? Parce qu'il n'a pas grandi comme nous. Comment est-ce que ma fille qui a 15 ans, je lui fais... passer Yom HaShoah.
Comment?
C'est très compliqué, tu comprends?
Moi, c'est
mais comment?
C'est intéressant.
Moi, c'est 1018, le bouquin.
C'est intéressant parce que sa grand-mère,
non, en fait, son arrière-grand-mère.
Son arrière-grand-mère, elle était dedans.
Ben oui, oui. Non, mais donc, qu'est-ce qu'on fait?
Mais comment on transmettre? Comment on arrive à transmettre quelque chose si on part pas, si on ne débat pas par le début? Qu'est-ce qui a amené ce...
Non, ça, bien sûr. Le côté historique de savoir ce qui s'est passé, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais aller au-delà, c'est quels sont les enseignements que nos jeunes vont prendre avec eux.
Mais ils le reçoivent par leur foi, par Ezra, par Pédagogie.
Oshéken, Oshélo.
Mais les jeunes, ils sont sensibles.
Et je pense qu'on ne peut pas se dédouaner. Les parents, la maison, c'est plus important que la noix. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais une fois la carole, ça doit se passer à la maison aussi. Moi, je sais que. Leur montrer des films de l'époque, des documents, machin, c'est très compliqué pour eux.
Ah bon, pourquoi?
C'est très compliqué pour eux parce que ils ont l'impression.
Il ne faut pas les perturber non plus.
Non, je ne parle pas de trucs violents ou quoi que ce soit. Mais ils ont l'impression que c'est tellement un monde qu'ils n'arrivent pas à entrevoir. Mais comment ça, il n'y avait pas de peuple juif.
Mais c'est au-delà de la compréhension humaine, de toute façon. Ben oui.
Non, pas du tout. Nous, on a très bien compris ça. Nous, on a très bien compris. Nos grands-parents et nos parents, ils comprenaient très bien ce que ça voulait dire être soumis au bon vouloir des goyim. Ça a été notre pain quotidien pendant 2000 ans. Donc, si tu veux, nous, on comprenait très bien ce que c'était être le juif tais-toi. Ouais. Que tu mets là, qui passe dans la poche parce qu'il ne faut pas montrer son judaïsme.
Ils y étaient. Hein? On y était.
Mais c'est ce que je te dis, donc nous, on comprend très bien ça.
Mais le massacre des...
Mais eux, non. Mes enfants, ils ne comprennent pas ça.
Le massacre des Arméniens par les Russes en 1915. Oui. C'est autour d'avoir. Ils ont tué 1 million de personnes comme ça, ils ont fait.
Alors, là, tu poses une autre question. Tu dis, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas se focaliser sur les différents génocides dans l'histoire?
Exactement. Ben, oui, qu'est-ce qui amène ça?
Alors, tout ça, ça va t'amener peut-être à l'antisémitisme. Alors, mais sauf que la Shoah a une différence par rapport à tous les autres génocides de l'histoire. Et pas parce qu'elle a tué plus de gens.
Les Khmer Rouges, il n'y a pas longtemps. Les Khmer Rouges,
oui,
en Asie,
oui,
il n'y a pas longtemps, 4
mais
millions
en,
de personnes.
Encore une fois, c'est pour ça que je te dis, c'est pas que une question de nombre de personnes. On n'a pas la palme d'or de ceux qui ont été le plus tués. C'est pas ça la question.
Sauvagerie.
Qu'est-ce qui fait que la Shoah est unique, malgré tous les autres génocides malheureux qu'il y a eu dans l'histoire? Il y a deux choses qui rendent la Shoah unique. La première, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Tous les autres génocides que tu as cités, c'est pas qu'on veut tuer les gens, c'est que soit on veut dominer l'endroit, soit le pouvoir de l'endroit, soit le pouvoir des ressources. Tu prends tu vas parler du génocide des Arméniens, bah c'est pas compliqué. Les Russes, ils veulent gérer cet endroit-là. Les Turcs, ils veulent gérer cet endroit-là. C'est à nous. Si demain, les Arméniens, ils s'en vont, est-ce que les Turcs, ils vont les poursuivre dans le monde entier? Non. Quand il y a eu le massacre du Rwanda,
chez nous, il y a l'antisémitisme.
Alors, attends, on va prendre l'antisémitisme. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a un racisme anti-X ou Y. D'ailleurs, c'est vrai. Mais quand tu vois le génocide du Rwanda, deux tribus qui se massacrent, une plus que l'autre. Mais si cette deuxième tribu massacrée, elle s'en va et elle va au Kenya, ben, ils ne vont pas se faire poursuivre pour se faire tuer. Alors que tu vois que dans la Shoah, la conférence de Wannsee, on va donner un document à toutes les personnes qui sont autour de la table, on fait la liste de tous les pays avec le nombre de juifs qu'il y a dans chaque pays et on va aller les chercher. Donc il n'y a pas d'échappatoire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'industrialisation de la mort.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est unique. Dans les autres génocides, il y a des gens qui viennent et ils tuent. Et ils tuent. Et ils tuent comment? Bah, comme ils peuvent.
C'est pas comptabilisé et puis programmé.
Là, on va avoir une véritable évolution pour arriver au top rendement. Et donc, c'est très différent. D'accord ? Mais encore une fois, tout ça, c'est très important de leur expliquer. Mais sur quoi on doit mettre l'accent pour eux, cette nouvelle génération ? Le côté de plus jamais ça, j'ai pas de risque, j'ai pas de peur, parce qu'ils ils le savent, ils le sentent. Ils vivent ici. Mais quel doit être, à mon sens, le message de Yom HaShoah? Le message de Yom HaShoah, pour moi, c'est doit être tourné vers la reconstruction. La reconstruction d'une identité commune. Commune. Que dans autant on a appris dans la Shoah qu'on nous a tous, du moins on a voulu tous nous tuer, et c'est ce tous-là qui doit être mis en avant. Très bien qu'il y a eu l'épisode, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, l'épisode Horev semaine dernière. Un truc, ça a fait les journaux, ça a fait les gros titres, parce qu'il y a un film de l'école de Horev de Pourim qui est sorti où ils ont fait. Et qu'est-ce qui comment serait notre école si on était Sfarad?
Oui.
Il y a quand même la.
Il y avait quand même quoi?
La directrice.
Dans le film. Ah ouais, d'accord.
Mais l'homme chané, le film, il est Bessader Gamour, il est Chaboud. C'est rien du tout. C'est 8 filles qui ont mis du henné dans la main et qui ont mis des chansons orientales. Rien d'extraordinaire, hein. Mais on est sorti. Hein. Et moi, je l'ai dit aussi dans ma synagogue, les amis, la vraie question, c'est quoi? C'est que oui, bien sûr qu'il y a eu un espèce d'élitisme ashkénaze qui sévit encore aujourd'hui dans certains endroits. Mais c'est complètement absurde.
Absurde.
On a voulu tous le tuer. C'est ensemble qu'on peut grandir. Et j'ai passé un coup de gueule dans ma synagogue en disant « Mais c'est pas normal que la Torah séfarade ait été mise de côté. C'est pas normal. » Et j'ai dit, et je le redis, moi je suis très content d'avoir grandi. Alors, je suis pas content pour d'autres sujets, mais sur ça, je suis très content d'avoir grandi par religieux. Et donc quand je suis revenu à la Torah à mes 18 ans, je ne savais pas ce que c'était un rabbin ashkenaz ou un rabbin sfarad. Moi, c'était un rabbin. Il n'y avait qu'une seule Torah. Et j'ai appris de là, il y avait des choses, je me suis dit, tiens, c'est un peu différent. Ben oui, c'est un peu différent, mais j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça. Bien sûr, j'ai besoin du pile-poule ashkenaz, mais j'ai besoin de la rigueur séfarade. J'ai besoin de la chassidoute, mais j'ai besoin de Torah Takabala. J'ai besoin des enseignements qui sont la halakha, directement la halakha. Mais j'ai aussi besoin de savoir comment on y arrive. J'ai besoin de tout. Oui.
Quand vous parlez de reconstruction, ça me fait penser à un monsieur que j'ai bien connu, vous connaissez peut-être le nom, qui est Avram Sutzkever, qui est le dernier grand poète yiddish de la période Peretz Markish, de la période yiddish de la Russie et de l'Union soviétique. Et il y avait au ghetto de Vilna, c'était un ami de mon père, Avram Sutzkever, qui est mort à 103 ans, il n'y a pas tellement longtemps. Et c'était un poète, et il était au ghetto de Vilna, il était dans la révolte du ghetto de Vilna avec Abakovner et avec les autres, ce groupe-là. Et il y avait un groupe de jeunes gens, de jeunes intellectuels juifs. On est en 1942-1943 à Vilna. C'est chaud. Il y avait les déportations, il y avait les assassinats, etc. Et il y avait des groupes de jeunes gens organisés par des rabbins et des intellectuels qui allaient faire le tri des livres et des documents de Vilna pour les faire sortir du ghetto et les sauver. Le judaïsme à l'état pur. C'est qu'on est dans le ghetto de Vilna, il y a des gens qui enterre, et la majorité de ces documents sont actuellement à New York au niveau, et je trouve que c'est la quintessence du judaïsme, c'est-à-dire qu'on est dans le ghetto de Vilna, il y a des gens...
Et on veut continuer, on veut transmettre...
Transmettre des documents.
Donc la reconstruction, la dimension d'un tout qui s'appelle le peuple juif, je pense que c'est sur ça qu'on doit mettre l'accent. De toute façon, c'est comme ça que nos enfants, ils le vivent.
C'est vital.
C'est comme ça que ça marche. C'est et donc, à mon avis, c'est sur ça qu'on doit travailler. Amen, ve, amen.